Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Bonjour, bienvenue à tous à un nouvel épisode du podcast Pop en stock dans sa version transatlantique. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, mon nom est Hélène Després. J'animerai l'épisode d'aujourd'hui que nous allons consacrer à la série Fringe. Il n'y a pas de raison particulière pour le faire maintenant, pas de suite annoncée ou d'actualité liée. Pour être honnête, on avait simplement envie de discuter d'une série que nous aimons tous beaucoup. Je présente donc les collègues qui se joignent à moi. Florent Favard est maître de conférence à l'Université de Lorraine et spécialiste notamment de narration télésérielle et des séries de science-fiction. Son livre « Le récit dans les séries de science-fiction de Star Trek à X-Files », publié en 2018, fait la part belle à Fringe d'ailleurs, donc je vous conseille d'aller le lire. Bonjour Florent.
Bonjour.
Et donc, Hélène Machinal, qui co-animera aussi avec moi aujourd'hui. Donc, Hélène est une habituée du podcast, mais je précise quand même qu'elle est professeure à l'Université de Bretagne-Occidentale, spécialiste de littérature britannique et de séries télé. Son dernier ouvrage, posthumain en série, Les détectives du futur, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un entretien avec Antonio Dominguez-Leva dans ce podcast. Donc, allez voir cet épisode-là qui est très intéressant. Étudie également la série Fringe dans son ouvrage. Bonjour, Hélène.
Bonjour.
Donc, commençons donc avec le vif du sujet. Après une présentation plus générale de la série, on va pouvoir entrer dans le détail des enjeux formels et thématiques qu'elle soulève de manière complexe. Donc, Fringe a été créé en 2008 par J.J. Abrams, Alex Kurtzman et Roberto Orci, le trio qui travaillait alors déjà au soft reboot cinématographique de Star Trek. Aussi, Lost, qui aurait un grand impact formel sur Fringe, est alors au sommet de sa popularité, mais ça fait déjà plusieurs années que J.J. Abrams n'est plus impliqué dans la série. Si tant est qu'il n'y a vraiment jamais été. La série débute ainsi sur la chaîne Fox le 9 septembre 2008 et se prolongera pendant 5 saisons jusqu'en janvier 2013 pour un total de 100 épisodes. Très inspiré de The X-Files, qui s'était terminé 6 ans plus tôt sur la même chaîne, Fringe adopte au départ un schéma assez classique de police procedural, les enquêtes policières étant mêlées de touches de fantastique, de complots gouvernementaux et de science-fiction. Mais contrairement à une série comme The X-Files, Fringe n'a pas peur d'explorer en profondeur les émotions complexes de ses personnages, en particulier l'amour filial et l'amour romantique, la peur, les remords, qui se retrouvent au cœur des intrigues et de sa conclusion. Chaque semaine, on suit le travail de l'agent du FBI Olivia Dunham, jouée par Anna Torv, chargée d'enquêter sur des affaires relevant de l'inexplicable ou du surnaturel. Pour y arriver, elle s'adjoint Walter Bishop, interprété par John Noble, un savant fou qu'elle libère d'un hôpital psychiatrique sous la garde de son fils Peter, qu'incarne Joshua Jackson. Le trio finit par comprendre que tous les événements étranges sur lesquels ils enquêtent sont liés au passé de Walter, notamment à ses expériences sur des enfants, dont Olivia, et sa création d'un portail pour traverser dans un monde parallèle. On apprend d'ailleurs qu'en 1985, il a kidnappé le double de son jeune fils dans ce monde parallèle, alors que son propre fils était mort d'une maladie. Les saisons subséquentes explorent les conséquences de ses transgressions. Olivia développe le pouvoir de passer d'un univers parallèle à l'autre, puis Peter retourne brièvement dans son monde d'origine, qui subit des destructions importantes à cause de l'expérience de Walter. Donc, dans la saison 3, les épisodes alternent entre les deux mondes parallèles jusqu'à ce que Peter se sacrifie et répare le paradoxe qui détruit progressivement le tissu de la réalité des deux mondes. Donc, dans la saison 4, une temporalité alternative s'impose dans laquelle Peter est mort dans l'enfance, du moins jusqu'à ce qu'il réapparaisse subitement. Seule Olivia finit par le reconnaître et choisit sa personnalité de l'autre temporalité pour poursuivre sa relation avec lui. La dernière saison, donc la 5e, se déroule en 2036, alors que Etta, Henrietta, la fille d'Olivia et Peter devenue adulte, fait partie de la résistance contre un gouvernement fasciste instauré par les observateurs, des humains dénués d'émotions venus d'un futur lointain. D'ailleurs, les observateurs, on les croise tout au long de la série, jusqu'à ce qu'ils prennent un rôle central dans la dernière saison. Etta retrouve ses parents figés dans l'ambre, donc et les réanime. Ensemble, ils parviennent à réinitialiser la temporalité au moment de l'attaque des observateurs, en fait de leur prise de pouvoir, préservant ainsi leur jeune famille et leur monde. Une chose qui en émerge clairement et sur laquelle nous allons revenir abondamment aujourd'hui, j'en suis certaine, est la grande complexité du récit et la présence de nombreux jeux thématiques et formels sur le réel, la fiction, le temps, l'identité, etc.
Oui, absolument. Fringe, pour moi, est l'une, sinon la meilleure série de cette période très riche hein, pour les formes sérielles, entre 2005 et 2015, en gros. Aux côtés d'une autre série que je ne peux pas oublier de mentionner, qui est Person of Interest, créée par Nolan, mais produite par Abrams aussi. Hein. La première singularité de cette série, ce qui m'intéresse aussi hein, dans mes recherches, c'est qu'elle hybride les genres. Et plus spécifiquement, Hélène en a dit un mot, le fantastique, le policier, voire le gothique et la science-fiction. C'est aussi une série avec trois protagonistes centraux, parmi lesquels un savant fou que je qualifierais d'exceptionnel. Et la série propose des univers parallèles, mais aussi des univers alternatifs, dont la nature autre hein, est soulignée par exemple par la présence du World Trade Center, des deux tours, hein, qui n'ont pas été détruites donc par les attentats du 11 septembre dans l'univers parallèle. La série file aussi le motif du doppelganger, du double. Les personnages ont tous des doubles hein, dans l'autre univers. Et on a un remarquable jeu de reflets et de contrastes qui se met en place. Le tout s'appuyant sur une tout aussi remarquable performance des acteurs et des actrices. Fringe reprend aussi le principe de l'épisode, hein, qui repose sur une formule, donc ça c'est un aspect dont Florent nous parlera aussi, avec une enquête à chaque épisode et un arc narratif qui s'étend à la fois sur chaque saison, mais qui fait sens également sur l'ensemble des 5 saisons. Les expérimentations sur la forme peuvent aussi être mentionnées, puisque la saison 4 propose un univers dans lequel l'un des personnages n'existe pas. Et la saison 5 constitue une sorte d'entité autonome qu'on pourrait rapprocher de l'anthologie. C'est aussi une série qui fait preuve d'une cohérence thématique assez remarquable, puisque les observateurs, Hélène, tu y faisais allusion il y a un instant, y apparaissent dès la saison 1 et qu'ils vont, au fil des saisons, devenir le fil rouge, d'une certaine façon, de l'ensemble de la série. Comme Walter, ils sont en quelque sorte à l'origine de ce qui déclenche le récit, l'anomalie qui ne sera compensée qu'au terme de la dernière saison. Alors, il y a énormément à dire sur ces observateurs, hein, mais on peut peut-être retenir ici leur capacité à se déplacer dans le temps et les divers dispositifs et autres interfaces qu'ils utilisent. À eux seuls, en fait, hein, ils constituent une matrice élaborée en tant que telle hein, sur les questions de temporalité, qui vont se déployer ensuite sur l'ensemble de la série. Alors, c'est également une série qui place les enjeux scientifiques et les interactions entre sciences, politiques et éthiques en son cœur. Mais ce qui est assez subtil dans cette série, c'est l'hommage qui est aussi implicitement rendu à une autre période clé de la science-fiction, donc en particulier les années 70 et les années 80. Donc, Fringe joue avec les temporalités, avec les espaces. Et c'est une série qui, en dépit des sujets centraux à aborder, reste très plaisante par le comique, l'humour hein, qui y est distillé, avec par exemple la vache de Walter arborant son uniforme du FBI, les échanges entre Walter et Astrid sur son incapacité à l'appeler par son prénom, enfin le bon prénom, tout en abordant aussi des enjeux d'un ordre totalement différent, tels que la quête de l'identité, la lutte contre des modes de contrôle de la population, les interactions entre sciences, technologies, pouvoirs, etc. Donc une série qui travaille la variation des possibles et des alternatives et qui, comme Person of Interest, s'illustre par sa conscience du pouvoir de la fiction à créer des mondes et qui exploite toutes les ressources de la forme sérielle fondée sur la répétition et la variation, comme on le sait depuis le célèbre article d'Umberto Eco.
Tu as raison de souligner l'humour, je pense, de la série. On oublie souvent d'en parler, étant donné que la série est si complexe et si riche. Mais effectivement, ce qui réussit à faire passer toute cette complexité-là, c'est l'humour. Florent, tu veux peut-être nous parler un peu de la forme, de la complexité narrative, comment les séries sont en train d'évoluer justement au moment où Fringe apparaît?
Oui, effectivement, puisque ben, un petit peu comme Hélène, Fringe a été au cœur de mes recherches. Notamment, mes recherches de mon côté se focalisaient sur une tendance spécifique qui était celle plutôt des années 2000, de ce que j'appelle les séries à promesse de dénouement. Je pense à Battlestar Galactica et Lost notamment, des séries qui promettaient une fin à leur intrigue, ce qui est un modèle un petit peu particulier dans le monde des séries, où les séries sont quand même conçues pour être écrites de manière plus ou moins improvisée. promettre cette unité, c'est quand même assez, ça peut paraître contradictoire, et c'est un exercice intéressant. Et Fringe arrive au terme de cette ère dont tu as finalement posé les bornes, hein, Hélène, c'est 2005-2015, c'est effectivement un petit peu près ça. En refaisant quelques recherches pour cet épisode de Pop en Stock, je suis retombé sur un épisode de Wired, la revue culturelle et technologique, qui, en 2013, à la diffusion du dernier épisode de Fringe, annonçait que ben, ce final marquait, je cite le titre, le déclin de la science-fiction sur la télévision de Network, c'est-à-dire les grandes chaînes américaines accessibles gratuitement, financées par la publicité. Et en un sens, ça n'est pas faux, même si ça n'est pas la fin de la science-fiction, c'est la fin d'un certain modèle, et notamment celui des networks qui imposait aussi, comme tu le disais Hélène, cet équilibre entre la forme épisodique et la forme feuilletonnante, entre l'enquête de la semaine et l'intrigue au long cours, qui caractérisait déjà X-Files, qui entre-temps avait été complètement transfiguré justement par cette tendance de la promesse d'un dénouement qui remettait en cause jusqu'au rythme épisodique, jusqu'à la quotidienneté, puisqu'on construisait dans les années 2000, et notamment dans Lost, avec Abrams, ces séries téléologiques portées par une fin, tendues tout entière vers une fin, qui remettait en cause ce rythme du quotidien des épisodes. Et Fringe revient un peu plus tard à cette formule semi-épisodique, semi-feuilletonnante, dirait Claire Cornillon, une de nos collègues. En un sens, c'est à la fois un pied de nez à Abrams et c'est à la fois la production la plus typique de Abrams. On en revient presque aussi à Alias, qui était une série estampillée de J.J. Abrams avant Lost. C'est-à-dire qu'Abrams, dans sa fameuse conférence TED, c'est quelqu'un qui a toujours été plus fasciné par l'univers des possibles lorsqu'on entame une histoire que par la fin. La fin, ça ne l'intéresse pas. Ouvrir la boîte mystère, ça ne l'intéresse pas. Il est plus intéressé par le mystère lui-même. Ce qui est fascinant, c'est que Fringe, finalement, on revient à la formule Alias, on revient à la boîte mystère, et plutôt que d'être tendu vers une fin en particulier, ne cesse de se réinventer, de se réécrire, et de manière parfois très, très aliénante, finalement. Et c'est là que, paradoxalement, on retrouve quand même le projet de Lost. C'est cette réécriture constante au gré des saisons qui va jusqu'à des formes de dénarration. Et là, je cite le spécialiste du récit, Brian Richardson, qui lui parle plutôt de... Il en parle chez Beckett. Mais c'est cette idée qu'à un moment donné, la figure, l'instance narratrice va nous raconter un élément qui va à l'encontre de ce qui a déjà été établi et qui dénarre finalement, qui détruit le récit, qui dit non, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et par l'astuce du voyage dans le temps, Fringe opère cette dénarration totale et défamiliarisante, typique de la science-fiction finalement, en effaçant Peter lors de la saison 4. Et c'est très, pour moi, c'est très perturbant aujourd'hui de revenir sur Fringe, parce qu'à la fois, cette réinvention constante, et notamment en saison 4 et 5, puisque saison 5, pareil, on passe dans le futur, effectivement, on change complètement de formule, on n'est même plus sur une enquête de la semaine, à la fois, cette réinvention, elle était à l'époque le fruit, justement, des difficultés des networks à financer ce type de projet. Fringe a eu des problèmes d'audience et de financement dès au moins la saison 2, je pense. Je me souviens des campagnes de fans, et aussi on le sent jusque dans la série. Je la marathonnais récemment, mais je me rendais compte de l'importance du placement de produits dans Fringe, notamment, je ne sais plus si c'est pour Ford ou pour Nissan, ou pour les deux à la fois à un moment donné. Il y a beaucoup de placements de produits de véhicules, puisque la série, on sent qu'ils ont besoin d'argent, donc ils se réinventent aussi pour essayer de recapter un public. Et cette réécriture, cette saison 4, qui est presque un reboot justifié à l'intérieur de la série, c'est quand même la preuve qu'on essaie de ramener le public devant les écrans, tout en posant une nouvelle énigme pour les fans, pour les habitués. Et dans le même temps, quand on regarde Fringe avec bientôt 10 ans de recul, hein, 2022, ça va bientôt faire 10 ans que Fringe est terminé, ces notions de transformation complète d'une série et de réécriture, on les a retrouvées au gré des années 2010. Alors, tu citais Person of Interest, Hélène, effectivement, ce jeu sur, là encore, un passage d'un format épisodique à un format de plus en plus feuilletonnant, avec une transformation aussi générique, une série qui, d'abord, Person of Interest, se présente d'abord comme de l'action, du thriller, et qui finit par de la science-fiction de haut vol, sur CBS en plus. Alors, on ne s'attend pas à voir de la SF de si bonne qualité sur ce network. Mais je pense aussi à Continuum, la série canadienne de Showcase, avec l'appareil du voyage dans le temps, mais aussi cette idée que le temps est fluide, que tout est réécrit, et finalement l'héroïne, un petit peu comme Olivia, se retrouve face à un monde, une biographie même qu'elle ne reconnaît plus. Ce qui est fascinant, c'est que dans Continuum, tout le monde est perdu. Ce qui nous étonnait dans la saison 4 de Fringe est poussé dans ses retranchements dans Continuum, une autre série dont on parle très peu. Donc Fringe n'est finalement pas le déclin d'une, ou la fin d'une ère, mais annonce presque la reconfiguration narrative, le départ d'une certaine perception du projet Abrams pour en revenir à cette idée de la boîte mystère et de l'horizon des possibles et de la magie aussi de la narration sérielle.
Il y a deux choses qui me viennent tout de suite dans ce que tu dis. Au fond, la dénarration, c'était une réflexion sur le narrateur non fiable. C'est l'instance narratrice qui déconstruit le récit, puis qui est non fiable. Mais là, ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là, qui est d'une variation sur ça, au fond, c'est que ça devient la réalité qui est non fiable, en fait. C'est plus l'instance narrative, mais c'est même la solidité du réel qui devient le problème de fiabilité des personnages. Et donc, je pense que ça nous engage d'une façon complètement différente, parce qu'on n'est pas méfiant envers l'histoire qu'on nous a racontée. Au contraire, on embarque dans cette instabilité-là avec plaisir.
On est au même niveau de savoir que les personnages, exactement comme dans la dernière saison de Lost. On procède un petit peu de ce même mouvement. C'est ça, effectivement, qui est fascinant. On n'est pas dans un jeu méta sur la construction du récit. Enfin, il est toujours présent à l'esprit, mais on vit aussi, avec les personnages, une reconfiguration du monde.
C'est comme si les personnages d'un récit non fiable étaient en train de questionner le narrateur non fiable dans une logique métanarrative assez intéressante. L'autre truc qui me vient en tête, tu disais que dans la dernière saison, on n'était plus dans l'enquête de la semaine. Mais moi, bizarrement, ce qui m'a frappé à la réécoute, je l'ai réécouté l'été passé, c'est qu'on est quand même très attaché à ça. Ce genre de retour-là, d'épisode clos où on a vraiment une enquête fermée. Même dans la quatrième saison, largement, il y en a encore beaucoup. Mais même dans la dernière saison, c'est vrai que c'est plus une enquête du FBI de la semaine, mais on est encore dans la cassette de la semaine. On est encore dans une enquête, en fait, parce que là, on trouve une cassette qui est enfermée dans l'ombre à toutes les semaines. Puis ça nous permet de trouver un nouvel indice. Après, c'est vrai que la quête est beaucoup plus longue, parce que la quête ultime, c'est de trouver le plan de Walter. Mais reste qu'on est quand même encore dans cette logique-là. On est très attaché, je trouve, plus que dans d'autres séries qui sont devenues plus purement feuilletonnantes, qu'on a complètement abandonné ce type de structure-là.
Oui, tout à fait. On retrouve cette forme du puzzle, c'est la pièce de la semaine, c'est l'étape de la semaine. Et là encore, tu sens finalement les leçons que Fringe tire d'autres séries. Je pense à Battlestar Galactica aussi. Tu as ce voyage vers la Terre qui, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais la série fait en sorte de mettre en avant, alors pas forcément épisode après épisode, mais tu sens que tu as des grandes étapes, tu as des épisodes dédiés à des grandes étapes. On te dit, c'est une nouvelle étape, on ne sait pas combien il y a d'étapes, mais c'est l'étape de la semaine, c'est l'étape du mois. Et effectivement, oui, ça se sent dans les cassettes, même en saison 4, il y a une progression vers la résolution du mystère. Mais ça d'ailleurs, en fait, c'est Claire Cornillon et Sarah Tchuel aussi qui travaillent sur cette question en ce moment. Claire Cornillon spécifiquement sur la question du semi-feuilletonnant, donc ce format qui émerge dans les années 90, hein, en fait, hein, et qui émerge pas mal des séries procédurales. Sarah Tchuel et Claire Cornillon se focalisent aujourd'hui un peu plus sur la dimension éthique, mais il y a aussi tout simplement une façon de traiter les thèmes de la semaine et de mettre en avant finalement la matrice de la série, de reformuler les mêmes questions qui passent toujours par aussi des personnages secondaires. Personnages secondaires de tel ou tel épisode qui vont amener quelque chose, et parfois on ne les verra que dans un épisode, mais ils vont avoir une importance démesurée. C'est comme dans l'épisode sur la tulipe blanche, par exemple,
ouais,
avec ce professeur qui ne cesse de tenter de remonter le temps pour sauver sa fiancée. Il apparaît dans un seul épisode, mais cette intrigue a une importance démesurée sur toute la série.
En fait, je pense que c'est ce qui fait partie de la grande richesse des séries, contrairement à d'autres formes où on ne verrait pas ce genre de choses-là au cinéma.
Il y a certains des showrunners des dernières saisons de Fringe qui expliquent qu'ils savent parfaitement que dans X-Files, qui est aussi un modèle, il y avait cet équilibre entre les épisodes monstres de la semaine et les épisodes dits mythologiques. Au sens où, quand on parle de mythologie d'une série, on a tendance à l'associer uniquement à l'intrigue à long terme. Pour moi, c'est un peu plus la mythologie d'une série, mais ce n'était pas la question ici. Mais il y a vraiment cette différence entre le stand-alone, l'épisode qui se tient tout seul, et l'épisode mythologique. Et les scénaristes disaient, nous, on fait du myth alone. C'est-à-dire qu'on fait un épisode mythologique, mais il est furtivement mythologique, et il présente quand même une enquête de la semaine à même de satisfaire un public qui ne connaîtrait pas trop la série. Mais il apporte des choses pour les fans qui ont envie de suivre l'intrigue au long cours, et il essaie donc de satisfaire les deux pendants du public.
Ça fait probablement partie aussi des problèmes de Fringe pour fidéliser son public. Son problème de popularité qui a été récurrent, le public très science-fictionnel était assez déçu par le fait que c'était pas de la hard science fiction la plupart du temps. Ça l'était parfois, mais ça l'était rarement, parce qu'on avait trop d'intrigues amoureuses. C'était pas une série qui était purement dans l'idée, contrairement à d'autres séries de science-fiction de cette époque-là. Je pense qu'on s'attend à plus de profondeur psychologique maintenant dans les séries de science-fiction. Mais inversement, c'était trop complexe pour un public. Les épisodes sont fermés, c'est vrai, on peut y revenir, mais je ne sais pas à quel point les gens tombaient sur un épisode de Fringe puis l'écoutaient comme on pouvait tomber sur un épisode de CSI. Je me demande à quel point cette volonté-là a jamais vraiment bien fonctionné, autrement dit.
Ça devenait difficile à suivre, puisque même s'il y avait l'enquête de la semaine, il y avait un esprit Fringe. Ouais. Et si on débarquait dans la série à la saison 4, même à la saison 2, je pense qu'il nous manque déjà quelque chose qui ne tient pas de la compréhension des éléments de l'histoire, mais de la compréhension de l'esthétique et l'esprit Fringe. Et cet esprit, justement, un peu à moitié décalé, science-fictionnel, mais mélodramatique, qui était très particulier et qui pourtant, j'en reviens encore à Battlestar Galactica, par exemple, s'il y a du space opéra mélodramatique à la télévision dans les années 2000, c'est bien dans Battlestar. On retrouve ça dans Fringe, mais ce qui est intéressant aussi, c'est marrant que tu en parles, j'avais eu l'occasion de faire une étude de réception sur le final, alors sur Tumblr. Donc, un type de public assez particulier sur le réseau Tumblr de microblogging. Beaucoup d'images, beaucoup de gifs animés, beaucoup de témoignages. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais fait la même chose avec Lost, et d'autres l'ont fait avec Lost aussi. On ne retrouve pas du tout la même séparation au niveau des modes de lecture. C'est-à-dire que dans Lost, il y a vraiment eu une claire distinction entre celles et ceux qui attendaient des réponses à toutes leurs grandes théories, des réponses finalement scientifiques, ils étaient orientés science-fiction, ils voulaient des grandes réponses au mystère, et celles et ceux qui avaient compris que Lost était en train de parler de ses personnages. Et il y a eu d'énormes critiques de la part de celles et ceux qui n'ont pas eu de réponse en disant bah, c'était trop mélo, c'était à l'eau de rose, machin. Et dans Fringe, sur Tumblr en tout cas, la réception du constaté arrivait à mêler les deux. C'est-à-dire que les fans disaient c'était fantastique Fringe parce qu'on pouvait théoriser et pleurer devant Fringe. Et on faisait les deux. Et les deux en même temps. Et les deux se nourrissaient l'un de l'autre. Un type de réception qui hybride, on va dire, des modes de lecture. Et j'insiste sur le traditionnellement perçu comme masculin et féminin et qui était complètement hybridé dans Fringe, alors que dans Lost, la scission, elle est claire et elle est clairement genrée.
Hélène, je pense que tu voulais aborder un peu l'idée de transgression, de transmédialité.
Je me suis demandé ce qui m'avait autant passionné dans Fringe, puisque effectivement, c'est vraiment une série que j'aime énormément. Et j'en suis arrivée à l'idée que c'était peut-être effectivement cette dynamique de la transgression qu'on peut décliner hein, de différentes manières, et c'est ça que je voudrais aborder un petit peu avec vous aujourd'hui, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est aussi cette dynamique qui explique pourquoi Fringe occupe une place un peu à part dans mon livre hein, sur les posthumains en série, dont le sous-titre est « Les détectives du futur ». Donc, il y a déjà cette idée de la transgression entre les deux genres hein, qu'on a déjà évoqués, la science-fiction et le récit policier. Mais la transgression, au départ, c'est aussi un aspect qui est intimement lié au fantastique hein, en tant que genre. Et on a déjà donc un peu parlé des doubles, qui sont d'ailleurs à la fois rattachés au gothique et au fantastique. Et de nombreux épisodes hein, dans la série font appel à des topos qui sont typiquement, classiquement gothique. Mais Fringe, au-delà de ce simple recours hein, à des motifs, s'applique aussi à transgresser les attentes génériques des spectateurs et des spectatrices. Sur toute la première saison, particulièrement, on est maintenu, mais c'est spécifique à la première saison, on est vraiment maintenu dans une incertitude, un entre-deux, hein, une hésitation qui relève du fantastique, mais un fantastique qu'on pourrait même aussi qualifier de fantastique de la sidération, puisqu'il est clairement ancré dans un excès qui s'illustre par l'horreur hein, des Fringe Cases sur lesquels les personnages enquêtent. Et de ce point de vue, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Fringe, c'est aussi une série qui maltraite les corps, qui expose le monstrueux, qui glace d'horreur hein, par l'intermédiaire d'une surexposition de corps mutants, contaminés, dédoublés, déchirés, manipulés. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais dès la fin de la saison 1, Il y a deux autres dynamiques génériques qui vont se substituer aux deux genres qui prédominent dans la saison 1, donc l'enquête policière et le fantastique, puisqu'on a une sorte d'explication, entre guillemets, mais toute forme d'explication, hein, qu'elle soit rationnelle ou pas, suspend en fait, d'une certaine manière, la rhétorique du fantastique et lui substitue celle de la science-fiction. Donc, à la fin de la saison 1, ce qui est acté, c'est qu'on est passé dans un autre univers qui n'a pas connu les mêmes événements historiques que le nôtre, hein, avec la référence 9-11, bombardement des tours à New York, une histoire alternative, mais qui, contrairement à l'Uchronie, ne remplace pas la réalité fictive qu'on avait dans la saison 1. Au contraire, elle s'immisce à ses côtés, d'une certaine façon, elle reste là, et le passage dans l'autre univers scelle une rupture générique. Mais je dirais que le paradigme indiciaire, pour parler plus de paradigme que de genre, hein, donc la quête d'indices, la lecture, le déchiffrement d'indices pour accéder à un sens, perdure dans l'ensemble de la série, en particulier avec la machine de la saison 3, qui peut détruire ou sauver les mondes, ou dans la saison 5 avec cette quête des cassettes VHS qui sont autant de morceaux d'un puzzle qu'il faut reconstituer. Et cette image du puzzle, elle figure déjà dans les récits policiers du 19e siècle, en particulier chez Wilkie Collins. Donc on constate alors la dynamique de la quête-enquête, hein, que cette dynamique de la quête-enquête a pris une dimension collective qui deviendra également politique, hein, dans la dernière saison. On est au départ sur une quête spécifique, singulière, celle d'Olivia, qui doit découvrir ses origines. Et petit à petit, s'immisce une visée plus collective, qui pour moi s'ancre davantage dans le genre de la science-fiction. Et on a effectivement donc toute la dimension dystopique de la saison 5 de ce point de vue-là. La machine de la saison 3, c'est aussi un point sur lequel je voulais m'arrêter, parce que ça me permet d'évoquer le cas unique finalement de Peter dans cette série. Hein, Florent a évoqué tout à l'heure le fait que la saison 4 nous proposait une diégèse dans laquelle ce personnage n'existe plus. Et je vous avoue que moi, personnellement, cette saison 4, j'ai eu du mal. Il y a un moment où on a envie que, bon, il revienne là. Hein. Alors effectivement, on est sur des saisons de 22 épisodes, donc il faut le temps que voilà, les choses se mettent en place. Mais donc, Peter est quand même un cas singulier et assez intéressant dans cette série, je pense, parce que, comme son savant fou de père, il va être confronté à la tentation hubristique d'un savoir scientifique qui induit un dépassement de l'humain. Dans son cas spécifique, donc il s'agit de l'augmentation de l'humain par la technologie. Et la saison 3 est centrale de ce point de vue, avec l'introduction aussi d'un autre personnage que je pense on n'a pas suffisamment étudié, hein, c'est le personnage de Sam Weiss et toute la thématique des prime people, hein, ce peuple originaire. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur cette création d'une mythologie dans la diégèse, hein, qui se met en place assez tard aussi, hein, d'ailleurs, dans l'ensemble de la série, qui, là encore, est liée à des traces écrites, à des artefacts, hein, eux-mêmes liés à des voyages temporels. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de souligner ce point-là. Et cette thématique de l'augmentation de l'humain, elle est reprise dans la dernière saison quand Peter devient post-humain, en fait, hein, grâce à l'implant qu'il dérobe à un observateur. Un implant qui lui permet de visualiser en fait, plusieurs lignes temporelles possibles en simultané et d'en faire l'instrument de sa vengeance, hein, puisqu'il veut se venger de la mort de sa fille tuée par les observateurs. Donc, ce sont bien les devenirs post-humains de l'espèce humaine qui sont ainsi évoqués dans la série, ce qui cristallise une des thématiques principales de la série, à savoir ce qui définit l'humain, ce qui nous confère une humanité. Bien sûr, Fringe est une série qui décline des variations complexes sur les mondes parallèles et ou alternatifs, les mondes futurs qui peuvent être condensés dans un épisode, on pense au célèbre épisode de la saison 3 « The Day We Died », qui est le dernier, hein, de la saison 3, où Peter est projeté en 2026. Donc, ces mondes futurs, ils peuvent être condensés dans un épisode ou dans l'ensemble d'une saison, hein, la saison 5 et sa société orwellienne. Donc, temporalité et espace sont d'ailleurs souvent inextricables, hein, l'un de l'autre dans cette série, qui met les deux aspects au service de sa narration complexe. Mais je voudrais m'arrêter brièvement sur une déclinaison plus originale des réalités parallèles ou alternatives, avec l'épisode de l'univers de poche, qui je crois est l'un de mes épisodes préférés de cette série, donc Pocket Universe, hein, c'est l'épisode 6 de la saison 5, que je trouve particulièrement fascinant et qui montre aussi la richesse des déclinaisons de la fiction comme machine à créer des mondes. Alors, il ne s'agit pas exactement de la même chose, hein, que les univers ou les lignes temporelles parallèles ou alternatives, ces sentiers qui bifurquent, hein, mais sur lesquels l'humain garde une sorte de contrôle, hein, s'il exerce son libre arbitre, hein, et surtout s'il suit ses sentiments ou s'il suit ce que ses sentiments l'incitent à faire, et c'est le cas de Peter. On aurait d'ailleurs au passage un parallèle, je pense, intéressant à faire ici avec une série beaucoup plus récente, Devs, qui de ce point de vue-là aussi travaille des thématiques similaires. Donc, ces différents espaces et temporalités qui sont explorés dans Fringe, hein, impliquent souvent la transgression d'un seuil. Hein, et c'est un aspect qu'Hélène développe de façon très intéressante dans un article à paraître. Donc, transgression d'un seuil. Et là encore, on a un schème typique du fantastique qui refait surface, hein, d'une certaine manière, puisque le fantastique est aussi lié à la liminalité et à l'entre-deux. Mais cet univers du poche est différent. Et le titre de l'épisode renvoie d'ailleurs explicitement à Lewis Carroll, hein, puisque c'est « Through the Looking Glass and what Walter found there ». Il ne s'agit pas réellement d'un univers alternatif ou parallèle, mais d'un espace liminal, littéralement, puisqu'il est situé entre les enveloppes des deux univers. Donc, c'est un espace interseuil, d'une certaine façon, transseuil, un espace interdimensionnel, au sens littéral d'inter, hein, entre, ni dans l'un ni dans l'autre. Et c'est aussi l'espace du repli où Donald et Walter ont caché l'enfant observateur, personnage qui sera central, hein, pour le dénouement de la série. C'est aussi un espace littéralement autre, un espace des sens fantastiques où les lois de la physique ne s'appliquent plus, tout y est à contresens, tout y est inversé, et le déroulement temporel et plus spécifiquement le temps newtonien y sont également, si ce n'est totalement suspendus, au moins très fortement ralentis, hein, dans la modification. Donc là encore, il y aurait beaucoup plus à dire, hein, sur cet univers de poche qui est aussi une synecdoque des multivers. Mais je mentionne juste un détail, hein, qui moi m'a intéressé aussi, c'est la chorégraphie qu'on doit réaliser pour y accéder, qui je pense gagnerait aussi là encore à être mise en parallèle avec ce que propose The OA, de façon beaucoup plus élaborée bien sûr et sur l'ensemble, hein, des deux saisons, mais sur cette question du geste et de la performance des corps. Et donc, pour terminer, je voulais revenir sur un dernier type de transgression, à nouveau lié au motif du seuil, hein, à savoir les dimensions transfictionnelles et transmédiales. Donc, on a plusieurs exemples de transmédiation dans la série, parfois dans des fragments d'épisodes ou des vignettes, par exemple la brève séquence de la saison 5, épisode 9, qui propose une vignette inspirée de Monty Python's Flying Circus, parfois dans des épisodes entiers. Les deux épisodes 19 des saisons 2 et 3 relèvent aussi de la transmédialité, et de la transfictionnalité pour Black Betty, avec l'intertexte, avec le Faucon Maltais, ou de l'hybridation médiatique. Et dans l'épisode 19 de la saison 3, on a quelque chose aussi d'assez singulier, parce que là, ça s'étend sur quasiment l'ensemble de l'épisode, quand Walter et Peter, après avoir pris quand même beaucoup de LSD, on va dire, explorent l'inconscient d'Olivia, qui devient un monde autre, mais là, du fait de l'introduction de la bande dessinée et de l'animé. Hein. Et cet exemple de transmédialité, il est aussi lié à l'entrée dans un monde, et ce qui est intéressant dans cet épisode spécifique, c'est que les personnages eux-mêmes verbalisent le fait qu'ils ont conscience de passer littéralement un seuil, hein, qui va les faire pénétrer dans un autre type de média ou de support médiatique, avec un champ contre champ, hein, qui souligne la transition et la transformation des personnages en personnages animés. Alors, sur un mode un peu différent, parce qu'il s'agit aussi alors d'une mise en abîme de la prolifération transmédiatique, on peut penser aussi à l'épisode The Recordist, qui est le troisième épisode de la saison 5, qui introduit des comic books racontant les exploits des agents de la division Fringe. Donc, on a là quand même un nombre assez conséquent, finalement, hein, de procédés liés à la transfictionnalité, à la transmédialité, qui présentent le risque, en fait, hein, de conduire à une conscience plus aiguë de la fictionnalité, et donc potentiellement de l'artificialité, du caractère factice, hein, du monde représenté dans la diégèse. Mais en fait, hein, quand on se tourne vers les théoriciens des mondes narratifs, hein, on se rend compte qu'ils ont finalement toujours rappelé que la mondialité d'une représentation dépend de son pouvoir d'immersion. Et dans Fringe, au lieu de renforcer la distance nécessairement introduite par une dimension réflexive, en fait, ces mises en abîme, ces ekphrasis, hein, ces dimensions transfictionnelles et transmédiales, accentue à mon avis cette immersion dans la série qui passe très souvent par un dispositif qui met bien sûr donc en abîme hein, l'écran du récepteur. Et ces divers dispositifs permettent ainsi de franchir les seuils séparant des mondes fictionnels, mais aussi des mondes médiatiques, hein, au sens de différents médias ou de différents formats et factures esthétiques, qui restent au terme de ces 5 saisons. Ce n'est pas une image, mais c'est un dessin au crayon, une tulipe blanche.
Il y a un truc qui m'est venu en t'écoutant, en fait, c'est à la fois le Pocket Universe et ce monde animé de la psyché d'Olivia. Ce sont des espaces clos, parallèles. Oui, dans le cas de la psyché d'Olivia aussi, c'est créé un peu comme un genre de Pocket Universe, c'est-à-dire que c'est un monde vraiment clos auquel on peut accéder que temporairement à un endroit précis, mais c'est surtout que c'est des espaces qui sont là pour se protéger et se cacher. Contrairement à ce genre d'épisodes-là qu'on pouvait voir dans d'autres séries comme Supernatural ou Buffy, déjà, on avait déjà des épisodes transmédiaux comme ça, où on était dans une comédie musicale, on était dans un spectacle de marionnettes, mais c'était toujours des choses qu'on subissait, c'était un danger en fait. Donc c'était toujours le danger que le réel s'effrite et puis qu'une autre forme de réel s'impose à nous avec des règles qu'on peut pas, qu'on subit, un peu comme Alice. Dans le cas de Fringe, c'est intéressant que ces univers-là, au contraire, sont connotés de manière plutôt positive ou en tout cas constructive. Dans le cas de la psyché d'Olivia, je ne dirais pas positive dans le sens où c'est un monde quand même très dangereux, mais c'est quand même l'endroit où elle se réfugie à cause de ses traumatismes d'enfance, à cause de sa peur. Le Pocket Universe est créé pour protéger Michael, puis le protéger de ce qui est encore plus intéressant, de le protéger du temps, en fait. Donc, c'est vraiment le lieu de la suspension temporelle, puis pour moi, c'est encore plus intéressant que l'espace. Même, il faut dire que l'espace qu'ils ont créé n'est pas particulièrement intéressant en soi. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de building abandonné. Pas spectaculaire, sinon qu'on joue avec un peu les architectures des chairs. Sur le plan temporel, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, comme s'il fallait être protégé du temps qui passe pendant cette même période-là. Peter, Walter et Olivia qui sont dans l'ombre, en fait. Qui sont aussi du protégé du temps qui passe, mais là, qui sont figés, qui ne peuvent pas exister dans cette bulle de protection-là.
Oh, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu soulignes, c'est que ça montre que Fringe travaille les thématiques à leur contraire. Enfin, c'est-à-dire qu'on a à la fois la question de l'espace et du temps, mais comme tu l'as très bien dit, c'est des espaces de temps suspendus. Donc, c'est une série qui est à la fois capable de filer des déclinaisons temporelles, des flash-forwards, des excursions dans des lignes temporelles dans le futur, dans le passé également, enfin, implicitement, hein, puisqu'on comprend que, en fait, Peter a mis les éléments de la machine qu'ils vont retrouver petit à petit dans la saison 3. Il est allé les replacer dans des périodes antérieures, quoi. Et en même temps, c'est une série, effectivement, qui interroge également sur la suspension du temps. Elle problématise, en fait, énormément de déclinaisons autour de ces questions temporelles. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Oh oui, le Pocket Universe, au fond, c'est un peu les mondes virtuels sur lesquels tu travailles. C'est-à-dire que c'est pas si différent, au fond.
Non, au fond, c'est pas si différent.
Je me disais que le Pocket Universe, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'évoque à la fois le pli hypothétique au sens de Sarah Tuell, mais Sarah, elle utilise plutôt cette notion pour parler notamment des rêves, de ces moments souvent de pause ou d'introspection où la série va nous révéler un possible narratif qui ne sera peut-être jamais actualisé dans la ligne temporelle de base, mais dont les personnages rêvent, que les personnages imaginent. Et ici, on a un pli, mais un pli qui est spatial et qui, au lieu d'être hypothétique, est effectivement, comme vous dites, ce lieu de pause, ce lieu d'introspection, que ce soit un espace mental ou un espace physique dans le monde réel. C'est un espace qui, pour moi, travaille aussi à l'intérieur de la structure du monde fictionnel, cette notion même de l'épisode de détour, l'épisode qui nous sort du rythme naturel de la série. Quand je dis détour, je pense toujours à cet épisode de X-Files où on se retrouve, bon, vous allez me dire comme d'habitude, dans une forêt. Souvenez-vous du début de cet épisode où Mulder, Scully et 2 collègues du FBI sont censés aller dans un séminaire. Ça les emmerde au plus haut point. Mulder voit sur le bas-côté la police qui est réunie au bord d'un parc national et il décide d'aller enquêter avec Scully. Cet épisode s'appelle « Détour ». C'est une très belle façon de dire que parfois, dans la forme épisodique semi-feuilletonnante, il y a ces épisodes qui cassent un peu la formule, qui nous font sortir du rythme, sortir de la quotidienneté et qui nous emmènent ailleurs. Et ces épisodes de Pocket Universe, que ce soit dans Fringe ou dans Doctor Who, effectivement, nous emmènent aussi ailleurs, nous sortent, sinon de la formule elle-même, au moins de l'univers, de sa continuité, nous emmènent ailleurs et nous permettent de voir l'univers de loin, l'univers qu'on a appris à suivre, à construire, et soudain, on en sort, on porte un regard complètement différent dessus parce qu'on est situé en dehors, ce qui est quand même, au niveau science-fictionnel, une idée assez étrange de se situer en dehors de l'univers, notamment aujourd'hui, des univers extrêmement complexes et denses qu'on peut construire à la télévision.
Moi, je vais aborder la présentation de la science et du savoir dans la série. Donc, Fringe, qui est en commun avec d'autres séries comme X-Files, dont on a déjà pas mal parlé, mais aussi avec Twilight Zone ou même avec le film Altered States de Kane Russell, qui était adapté du roman de Paddy Chayefsky. Donc, toutes des références que J.J. Abrams lui-même cite comme influence d'ailleurs de la création de la série. Donc, c'est toutes des œuvres qui sont à la frontière de plusieurs genres, comme on a déjà dit, mais donc qu'on pourrait faire remonter comme cette influence aux nouvelles de Poe, de Lovecraft et d'Hawthorne déjà au 19e siècle, puis au début du 20e, à la limite du fantastique, du policier, de l'horreur et de la science-fiction. Donc, la série maintient toujours un doute sur la nature rationnelle ou surnaturelle des phénomènes. Donc, jusqu'à présent, on a parlé surtout du régime science-fictionnel ou policier, mais c'est vrai qu'on reste dans le surnaturel quand même assez régulièrement, ou en tout cas dans le doute autour de l'explication. Entre autres, les figures du fantastique et de l'horreur sont monnaie courante. On pense aux fantômes, aux monstres, à la marionnette, à la possession. Par exemple, dans l'épisode 6B, l'épisode 14 de la saison 3, on assiste à un couple de veufs qui croient côtoyer le fantôme de leur époux respectif dans leur appartement. Ça se révèle plutôt être leur double dans le monde parallèle. Donc, on est donc dans un cas typique ou un motif classique du fantastique, le fantôme de l'être aimé qui obsède jusqu'à la destruction, se retrouve intégré dans un schéma épistémique qui est typique de la science-fiction, tout aussi classique d'ailleurs, le monde parallèle, le double. Ce cas-là est révélé sur le mode de l'enquête policière qui nous amène donc dans un troisième paradigme épistémique, celui de la trace qui doit être décodée par Olivia pour identifier la source du problème qui met même en danger la stabilité de l'univers. En fait, les explications scientifiques abondent dans la série pour justifier toutes sortes de phénomènes, mais la plupart du temps, elles relèvent de pseudo-sciences ou de fringe science, comme l'indique le titre, auxquelles on fait d'ailleurs la part belle dans le générique d'ouverture. En fait, une des particularités formelles de Fringe, c'est que les génériques d'ouverture varient en fonction des saisons, mais surtout en fonction des mondes qui vont être dépeints dans l'épisode en particulier. C'est-à-dire que les premières saisons, on a un générique qui est bleuté avec des mots dont je vais vous reparler. Ensuite, lorsqu'on arrive dans le monde parallèle, on va avoir un générique qui va être rouge, donc une autre couleur. Dans la saison 3 en particulier, on va alterner entre le monde parallèle et le monde d'origine. Et donc, c'est comme ça que le générique d'ouverture va nous permettre de savoir tout de suite dans quel univers on va se trouver dans cet épisode-là spécifique. C'est un trait formel assez original à Fringe. Ce motif-là du générique qui change, il va être d'ailleurs encore plus développé puisque les épisodes qui se passent en 1985 vont avoir un générique avec une esthétique rétro. Les épisodes qui se passent dans la temporalité alternative vont avoir encore une autre couleur. Donc, je pense qu'on finit par avoir 5 ou 6 génériques différents, de couleurs différentes. Et donc, ça, c'est un élément qui est assez important dans la série pour le spectateur, pour savoir dans quel monde il va être projeté soudainement. Dès les premières saisons, donc, on a ce générique bleuté avec des mots qui flottent. Et ces mots sont des sciences ou des pseudo-sciences, en fait, qui sont mélangés, qui sont non hiérarchisés. Et en ça, c'est hyper intéressant et puis c'est très représentatif de la série. Donc, dans la première saison, par exemple, on a psychokinésie, téléportation, nanotechnologie, intelligence artificielle, précognition, matière noire, cybernétique et quelques autres. Donc, déjà là, on voit un habile mélange de sciences véritables ou de technosciences, mais qui sont à la fine pointe, comme les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, la matière noire, ou en tout cas, tout ça était à la fine pointe quand la série est parue. Aujourd'hui, c'est déjà peut-être entré un peu plus dans la culture populaire, ou la cybernétique même, qui, elle, existait déjà depuis les années 40, et un mélange avec de pseudo-sciences comme la psychokinésie ou la précognition, pseudo-sciences qui apparaissaient déjà très présentes dans X-Files, par exemple. Les génériques des saisons 2, 3 et 4 continuent dans la même logique avec un mélange de ce qu'on considère aujourd'hui comme science ou pseudo-science, sans aucune hiérarchisation, ce qui place la série à mi-chemin entre la science-fiction et le fantastique, justement. et on questionne les limites de la science et de la façon dont elle est perçue et pratiquée. Et c'est seulement en comprenant comment fonctionnent ces génériques habituels, donc qui annoncent les thèmes de la saison, parce que tous ces thèmes-là vont être thématisés dans des épisodes de la saison, on peut comprendre le générique rétro, hein, qui annonce les épisodes de 85, et le générique noir, qui précède les épisodes en 2036. Change évidemment, hein? Ce ne sont plus les mêmes sciences et pseudosciences. En 85, on peut lire micro-ordinateur, fusion froide, clonage, nanotechnologie, invisibilité, génie génétique, chirurgie au laser, fécondation in vitro, réalité virtuelle. Puis en 2036, hein, dans la version dystopique, on lit communauté, joie, individualité, éducation, imagination, procès équitable, propriété, libre arbitre. Donc, ce que la présence de ces mots dans le générique révèle d'abord et avant tout, c'est que la série adopte une perspective relativiste, ou du moins en tout cas historicisée et contextualisée du savoir. Autrement dit, ce qui apparaît impossible à une époque et dans une société donnée est amené à changer en fonction de l'évolution de la science et du contexte. Ce qui ne signifie pas forcément que tout se vaut et que toute science perd de sa valeur, puisqu'elle est amenée à être contredite éventuellement, hein, comme on aurait pu voir que ce qui était des pseudo-sciences en 85 serait perçu comme des sciences véritables aujourd'hui, par exemple. Mais la série montre d'abord et avant tout que la science est une méthodologie, un ensemble de techniques et d'outils d'analyse qui permet de trouver la meilleure explication possible à un phénomène surprenant qui peut être analysé de manière surnaturelle. Donc, ici, les savoirs sont contextualisés et relativisés, donc ce n'est pas le cas pour la méthode ni pour l'éthique scientifique. Et pour moi, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que dans la série, ce qui apparaît immoral aujourd'hui, hein, par exemple des expériences sur des enfants, est présenté comme tout aussi immoral dans le passé et dans le futur. Les scientifiques se questionnent ou pas sur la moralité, certains le font, certains ne le font pas du tout, de leurs recherches et de leurs actions, mais ces questionnements-là apparaissent au contraire du savoir lui-même, universel et intemporel. Donc, à toutes les époques, on nous montre que pour être moral, la science doit avoir un cœur. Autrement dit, elle ne doit jamais être purement rationnelle et détachée des émotions humaines. C'est d'ailleurs la morale de la fin de la série, hein, dont on a parlé un tout petit peu, puisque la dystopie de 2036 vient justement du fait que les humains d'un futur lointain, hein, les observateurs, ont abandonné complètement les émotions et rationalisent complètement leur régime totalitaire. Donc, on serait dans la raison pure. L'humanité aurait évolué vers ça. Et donc, la victoire contre eux est rendue possible par l'envoi dans le futur d'un enfant, Michael, combinant parfaitement la raison et l'émotion pour pouvoir changer leur trajectoire. Évidemment, là, cette réflexion sur la moralité de la science dans la série m'amène directement à la figure du savant fou, dont on a déjà un peu parlé, et qui traverse toute la série. Donc, pour en dire quelques mots, je reviens d'abord brièvement sur la définition que je développe dans ma thèse. Le savant fou apparaît donc dans la fiction au 19e siècle en Angleterre, donc dans Frankenstein, Jekyll et Hyde, Docteur Moreau, toutes des œuvres qui sont d'ailleurs régulièrement cité ou évoqué dans la série. Il travaille toujours dans l'isolement, ses recherches sont transgressives et elles ont des conséquences désastreuses. Il n'est pas fou au sens psychiatrique, mais au sens sociologique. Hein. Il est marginal dans l'excès et dans la déviance des normes. Il se laisse emporter par une passion épistémique qui dépasse tout. Son expérience, la plupart du temps une créature, mais pas toujours, se retourne contre lui, le confronte et le détruit. En gros, c'est le savant fou classique. À partir de 1945, les procès des médecins de Nuremberg et la bombe de Los Alamos, hein, deux choses qui sont évoquées régulièrement dans la série aussi pour parler d'éthique. La figure du savant fou se transforme, la science devient collective, institutionnalisée, met en danger la survie de l'espèce humaine, ce qu'on voit aussi, hein, il y a tout un imaginaire de la fin dont on n'a pas parlé dans Fringe, et instrumentalisée par la politique, l'armée et le capitalisme, trois choses qui sont aussi évoquées dans la série. Les savants fous sont pas complètement isolés, hein, ils travaillent plutôt dans un cocon au centre de l'institution qui profite de son absence de scrupules. Donc, le savant fou est de plus en plus symptôme d'un système qui dérape et de moins en moins un loup solitaire. Je voulais revenir vraiment là-dessus parce que, en fait, ce sont des deux versions du savant fou qui sont vraiment en tension dans la série et puis qui sont vraiment mises en jeu. Dans Fringe, il y a plusieurs personnages de scientifiques, hein, mais on peut les séparer en quatre. Il y a Walter Bishop, qui est à la fois un savant fou classique et un savant étourdi à la professeure Tournesol. Il y a William Bell, savant fou plus moderne, hein, comme dans la logique post-45, sans morale, travaillant isolé, mais au cœur d'une industrie qu'il a lui-même créée. Et il y a tous les scientifiques et techniciens qui travaillent pour Massive Dynamics, hein, donc au service du privé, qui inventent toutes sortes de choses plus utiles ou problématiques selon les cas. Et ceux qui travaillent pour le ministère de la Défense, hein, dans le monde parallèle, donc pour Walternut, et donc pour l'armée, en fait. Et qui font aussi des expériences assez problématiques, notamment sur Olivia, Donc, ces équipes de scientifiques travaillent dans des grosses institutions qui font des expériences très problématiques qui mériteraient sans aucun doute une analyse en soi, mais je vais m'arrêter plutôt sur Walter Bishop, qui est au cœur de la série, hein, une version du savant fou assez intéressante. Donc, pour sa première fois à l'écran, Walter Bishop apparaît donc dans le premier épisode, dans le pilote, dans toute sa dualité héritée de Jekyll et Hyde, c'est-à-dire qu'on voit deux photos officielles trouvées par Olivia qui enquête et qui sont tirées de son passé, hein, l'une qui accompagne des articles scientifiques où il paraît élégant, confiant, presque arrogant, une image qu'on va retrouver de lui, un peu à la forme de Walter Nutt dans le monde parallèle. La deuxième photo, qui est donc celle de son permis de conduire, qui a été révoquée, où il apparaît vieilli, décoiffé, mal rasé. Donc, lorsque Olivia décrit à Peter, son fils, les recherches qu'il a menées dans les années 70 sur les fringe science, notamment la réanimation, il se demande si son père était un docteur Frankenstein. Lorsqu'on rencontre finalement le Walter pour vrai, donc pas seulement en photo, il est assis dans sa cellule de l'asile psychiatrique. Il est voûté, sa barbe est longue et son regard est inquiet, hagard. Donc, l'image annonce ce qui va le caractériser tout au long de la série. Hein. Walter est un savant fou brisé, vulnérable et véritablement fou, contrairement à la plupart des savants fous. Et des détails sur sa vie qu'on apprend ensuite font juste confirmer ce qu'on imagine. Il a passé plusieurs années à faire des expériences dangereuses, éthiquement problématiques, expérimentant sur des enfants, créant des portails destructeurs entre les univers parallèles, créant des créatures OGM toutes plus monstrueuses les unes que les autres, qui reviennent d'ailleurs pour la plupart le hanter. Donc, dans l'épisode Peter, hein, qui se déroule en 85, on constate finalement à quel point sa conception de l'éthique scientifique s'approche de celle du docteur Moreau, en fait. Que je cite Walter, « What you must understand is that as scientists, we must embrace every possibility, no limitations, no boundaries, there is no reason for them. » Donc, on est vraiment dans l'idée de la science sans aucune limite et qui dérape complètement. Donc, d'ailleurs, dans le même épisode, il argumente avec son assistante de laboratoire, hein, qui, elle, par ailleurs, correspond à ce personnage de scientifique plus moral, plus rationnel, qu'on voit aussi dans la plupart des romans de savants fous. Elle le questionne sur ces limites-là. Elle va citer Oppenheimer, d'ailleurs, et ses regrets après la construction de la bombe pour le mettre devant les problèmes de moralité. Et puis lui-même va répondre qu'il y a seulement un dieu dans son laboratoire et c'est lui. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. On est dans ce Walter-là qui va être craint par Walter lui-même. Donc, ce qui est paradoxal, c'est celui qui craint, c'est pas le Dr. Jekyll, c'est Hyde, en fait. C'est Hyde, le scientifique. Hyde, c'est le savant fou que Jekyll craint. Donc, il y a vraiment un renversement assez intéressant de ce côté-là. Mais même s'il reste un savant fou assez classique, il continue d'expérimenter sans se préoccuper des conséquences, donc est dévoré par sa curiosité, même dans toute la série. Walter se démarque parce qu'il demeure éminemment sympathique, donc un personnage auquel on s'attache, contrairement aux autres savants fous qui, quand ils sont vaguement sympathiques, comme le professeur Tournesol, restent des personnages très secondaires et pas particulièrement développés sur le plan psychologique. Là, c'est le contraire. On est devant le héros de la série auquel on est supposé s'attacher. Et donc ça, c'est assez singulier aussi du côté des savants fous. Donc, il apparaît vulnérable, psychologiquement affaibli, dépendant des autres, surtout impulsif et obsédé par des désirs enfantins. Donc, il est toujours en train de vouloir des friandises qui lui rappellent l'enfance, mais aussi marqué par son amour pour son fils, hein, amour qui se retrouve au cœur de bien les enjeux de la série. Donc, au cours de la dernière saison, qui se déroule dans le futur, Walter est amnésique et sa petite-fille, Etta, dont on a déjà évoqué l'existence, lui réimplante les morceaux de son cerveau qu'il avait fait amputer des années auparavant pour cesser d'être le savant fou amoral, dangereux et incapable d'empathie qu'il se sentait lui-même devenir. Donc, tout au long de la saison, il montre des signes de son ancienne personnalité dont il a une peur profonde, hein, comme je disais, chez Jekyll et Hyde. Cette inquiétude devient donc une obsession qui atteint son apogée lorsqu'il prend la forte dose d'acide dont Hélène nous a déjà parlé. Donc, à la fin de l'épisode, de cet épisode, de l'épisode 9 de la saison 5, qui est effectivement magnifique, on reprend d'ailleurs des images de l'épisode de Peter qui vont être projetées dans cet épisode. Donc, à la fin, on le retrouve assis par terre dans son ancien laboratoire d'Harvard, transformé en ruine par les années d'abandon. Ses souvenirs le hantent, hein, les souvenirs que nous-mêmes, on a vus, puisqu'on a assisté à cet épisode en flashback. Et en gros plan sur son visage, on projette ces images et son visage est terrifié au bord des larmes. Mais plutôt que de nous montrer donc vraiment en flashback classique, c'est des projections qui sont à la fois, oui, sur son visage, mais aussi sur l'espace du laboratoire, sur l'espace mental de Walter. Donc, tentant de se débarrasser de cette partie-là de sa vie, il asperge d'essence, hein, son ancien cahier de laboratoire. Il le regarde brûler. mais l'hallucination de son assistante, hein, qui est morte dans le feu du laboratoire, puis un double machiavélique de lui-même apparaissent et l'interrompent. Donc, toute la série tourne autour de la dualité de Walter, de la lutte qu'il dévore entre l'émotion et la raison pure, qui est incarnée souvent par William Bell, en fait, par son double et son ancien collègue, qui est dans la moralité totale sur le plan scientifique, donc qui refuse qu'il y ait la moindre limite, mais aussi les observateurs. Donc, la décision finale qu'il prend de se sacrifier, hein, en escortant dans le futur le jeune Michael, qui incarne la réconciliation entre les deux pour sauver l'humanité, c'est la parfaite résolution d'un récit de savant fou, hein. Le savant fou doit mourir pour ses transgressions, hein, c'est presque une règle du genre, et la condition pour un retour à l'équilibre. Donc, ultimement, Fringe est donc un parfait exemple du récit de savant fou et de tout ce qui comporte de réflexion morale sur la science, son instrumentalisation par toutes sortes de forces et ses conséquences.
Ce que je trouve aussi intéressant, finalement, j'étais en train de me dire pendant que tu parlais de toute la question des émotions et de l'opposition entre émotion et raison, qui t'as raison en fait, et sans doute le fil rouge aussi de cette série, bon, on a plusieurs fils rouges finalement dans cette série, c'est ça qui est bien également, c'est que souvent, enfin, en tout cas dans la science-fiction, traditionnellement, cette réflexion sur les émotions, sur la capacité à avoir des émotions, à ressentir des émotions qui sont généralement mises en avant pour définir l'humain, bah dans toutes les séries qu'on a vues récemment de Westworld, toutes les séries qui mettent en scène des androïdes, c'est justement des créatures artificielles qui justement vont problématiser, par opposition entre identité et altérité, cette définition de l'humain qui reposerait sur l'émotion plutôt que sur la raison. Et là, en fait, c'est fait effectivement par l'intermédiaire du savant fou. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est le savant fou qui demeure sympathique. Parce qu'effectivement, on en a un tout petit peu parlé quand j'ai parlé de la dimension comique de la série. Il y a l'épisode où il est, tu te souviens, confronté à Olivia et où il va reconnaître, avouer en fait, qu'il a fait effectivement des expérimentations sur des enfants, donc des expérimentations qui ne sont absolument pas éthiques. Et cet épisode, il se déroule dans un café et le titre de l'épisode, c'est « The Pastry Attack ». Le titre même, en fait, montre effectivement que, en dépit du contenu de l'épisode, qui est quand même un savant qui reconnaît qu'il a fait des expérimentations plus que douteuses sur des enfants incapables de se défendre ou de s'opposer à quoi que ce soit, il porte un titre qui renvoie à la pâtisserie, au gâteau, à la sucrerie et à tout ce que qui ramène systématiquement Walter vers l'enfance. Et puis, une dernière petite remarque, et après, je laisse Florent réagir. Je crois que tu as absolument raison quand tu files le parallèle avec Jekyll and Hyde et tous les renversements qu'on peut repérer dans la série sur à quel moment Walter renvoie à Hyde ou à Jekyll. Enfin, ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Et en fait, on pourrait même aller presque un peu plus loin. Et je suis en train de me demander si tu ne mets pas le doigt là sur quelque chose de vraiment fondamental. C'est que finalement, si on veut aller encore plus loin dans ce parallèle avec Jekyll and Hyde, si tu te souviens du roman, dans le roman, on a accès à la confession de Jekyll, mais on n'a jamais accès à Jekyll qui nous explique quoi que ce soit. Et la confession de Jekyll, c'est une lettre. Donc, c'est une lettre qui est un document, donc un texte fermé, un texte clos, hein, que Hutcherson va découvrir dans le laboratoire de Jekyll une fois qu'il est rentré dans ce laboratoire et qu'il a constaté donc, qu'il n'y avait plus que le corps de Hyde et plus aucune trace de Jekyll. Et donc, le dernier signe, d'une certaine, vraiment au sens littéral de la lettre hein, qu'on aura de Jekyll, c'est cette last confession hein, qu'il écrit et qui clôt le roman de la série. On a finalement la révélation. Donc ça s'opère aussi par un signe, ça s'opère aussi par une lettre. La lettre qui clôt le roman Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui est une lettre testament également, mais un espace fermé hein, auquel on doit pénétrer, nous en tant que lecteurs. On n'est plus dans le récit, on est sorti de la narration à ce moment-là dans le roman. D'une certaine façon, il me semble que tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est que dans Fringe, l'explication, ou du moins les dernières images qu'on a, c'est aussi l'arrivée d'une lettre que Peter va ouvrir et dans laquelle on va aussi avoir un signe, donc un seul signe qui est celui de cette tulipe dessinée, hein, pas une lettre comme dans The Last Confession of Jekyll dans le roman. Mais du coup, là, il y aurait peut-être aussi un parallèle à poursuivre jusqu'au terme, finalement, à la fois du roman et de la série.
En fait, Jekyll échoue alors que Walter, au contraire, réussit dans son sacrifice. Il y a cette inversion-là qui est assez intéressante parce que la fin de Fringe est si satisfaisante parce que ce sacrifice-là boucle la boucle, en fait. Donc, réussit à résoudre, à rééquilibrer l'univers ce qu'on ne s'attendait pas forcément. Je veux dire, on a toujours l'impression qu'on est dans une chute libre. Hein, dans Fringe, on a toujours l'impression qu'on ne reviendra jamais à un équilibre, à un monde qui serait harmonieux. Et on finit par comprendre que la seule façon d'y arriver, c'est de sacrifier un de ses personnages principaux. Donc forcément, on pouvait y arriver seulement à la fin. Hein. Mais c'est oui, en ça, c'est une fin qui est particulièrement satisfaisante, je pense. Effectivement, contrairement peut-être à la fin de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, qui est particulièrement frustrant, ben, qui est logique, tout à fait logique dans son contexte. Mais puis il y a tout un rapport aussi dans les deux, hein, dans Jekyll Hyde puis dans la série, sur psychanalyse, hein, l'introspection, donc espèce d'émergence d'une conscience aussi qui est hyper torturée, qui est présente très fortement dans les deux. Mais par contre, j'aimerais vous entendre sur cette idée, en fait, c'est intéressant que pour la transformation de Walter passe par l'ablation des morceaux de cerveau.
Il y a le côté puzzle encore dans les pièces de cerveau. C'est effectivement, la mémoire, elle n'est pas localisée dans des endroits en particulier, mais c'est cette idée il manque des morceaux. Il manque littéralement des pièces dans la mémoire lacunaire de Walter. Elles sont matérialisées par ces morceaux de cerveau qui manquent. Même si c'est du coup un petit peu pseudo-scientifique, ça fonctionne très bien, d'autant plus lorsque dans cet épisode où c'est Newton, l'un des méchants, qui arrive enfin à connecter ses bouts de cerveau à Walter, mais qui ne les réinsère pas à l'intérieur du crâne. Ils sont toujours dans leur petit bocal et à la fin, ces morceaux, faute de nutriments, ils se délitent et Walter est littéralement confronté au délitement de cette partie-là de lui qu'il n'a pas envie de retrouver, mais qu'il lui faudrait retrouver pour résoudre certains problèmes. Et c'est le problème de Walter du début à la fin, c'est ce que vous expliquez toutes les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que au fil de mes recherches, j'avais lu des choses sur... Alors, j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est une autrice qui a écrit sur Fringe. Elle parlait de la figure du père scientifique et de l'idée que ce sont constamment, ou presque quasi tout le temps, je crois que j'avais même essayé de mesurer à un moment, ce sont quasiment que des hommes qui provoquent la catastrophe de la semaine, l'enquête de la semaine. Et cette autrice parlait de la figure du père scientifique au sens où ce sont aussi souvent littéralement des pères qui, ou éventuellement d'ailleurs des compagnons qui vont briser les règles et les lois physiques pour un être aimé. Ce qui reproduit de manière fractale le péché originel commis par Walter et annonce aussi finalement sa fin aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, toutes ces questions de savant fou, c'est bien un savant fou et pas une savante folle. Ça nous ramène aussi à des questions qui me semblent être celles de Fringe. Sont-elles traitées de manière adroite? Je ne sais pas. Mais le fait que les observateurs soient aussi tous des hommes dit pas mal de choses, je trouve, du rapport de la série à la masculinité et à un hubris qui serait lié spécifiquement au masculin. Et ce qui, tu le disais, Hélène, renvoie aussi au parcours de Peter, dont on lui dit qu'il est censé être un meilleur homme que son père. C'est la phrase en grec ancien qu'il répète. Et il prend le risque de devenir son père, justement. L'accomplissement de son parcours se fait en fin de saison 5 lorsqu'il accepte de vivre ses émotions plutôt que de les fuir en devenant lui-même un observateur pour se venger. Et lorsque Olivia le ramène finalement vers son humanité, l'humanité serait définie comme quelque chose qui participe à la fois de valeurs et qualités perçues comme, là encore traditionnellement perçues comme masculines et féminines, c'est l'intellect et les émotions. On ne peut pas avoir l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, moi, ça me ramène à la réception de la série. Peut-être que quand on regarde cette réception très hybride de la série, elle a réussi son coup au moins au niveau de ce qu'elle voulait transmettre, de cette nécessité de ne pas finalement s'abandonner à cet hubris qui est qualifié comme masculin, me semble-t-il, dans la série. Il y a peu de figures féminines qui soient des antagonistes ou des femmes qui seraient justement atteintes d'hubris, qui voudraient détruire le monde, à part peut-être la Nina de la version 4, de la saison 4, mais...
En fait, Florent, là, tu mets le doigt sur un gros problème dans les séries et dans les romans. Hein, c'est que, en fait, les savantes folles, il faut vraiment aller les chercher pour les trouver. Il y en a très, très peu. Mais alors là, ce n'est pas spécifique aux séries. Hein. En littérature, c'est exactement la même chose. Et on en a vu émerger quelques-unes ces dernières années dans certaines séries, mais ça reste extrêmement rare. On ne peut même pas considérer que Fringe serait daté du point de vue des genres, de ce point de vue-là. Je crois que c'est plus une persistance, effectivement, de ce schéma très patriarcal où le masculin est associé à la raison et le féminin aux émotions. Même si, effectivement, le personnage de Peter permet d'aller quand même plus loin dans cette série-là, parce que c'est finalement son choix à lui aussi de suivre les émotions qui l'empêchera de tomber dans l'hubris du savant fou, comme tu disais, Florent, où il pourrait devenir comme son père.
Je pense que Florent a raison, c'est-à-dire que l'hubris est du côté masculin dans la série et la morale est du côté féminin. Beaucoup plus que la raison et les émotions. C'est-à-dire que la raison et les émotions, pour moi, ils ne sont pas particulièrement genrés dans la série. Parce qu'Olivia elle-même est montrée comme ayant beaucoup de problèmes à gérer ses émotions. Donc, je pense que le personnage féminin central est justement assez froid en général, assez cérébral, alors que Peter, au contraire, est beaucoup plus émotif dès le début, en fait. C'est lui qui réagit à son père, à son... Je pense que lui est vraiment plus dans l'émotion. Par contre, c'est vrai que Hélène a raison, il y a très, très peu de savantes folles. Il y aurait sans doute beaucoup de raisons à ça, qui remonte probablement à Frankenstein, hein, ou à la construction même du personnage du savant fou qui, dès le départ, crée sans la femme. Donc, c'est un peu ça, c'est l'acte de naissance du savant fou, c'est l'exclusion de la femme dans la création de la vie. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a quelque chose de génétique un peu dans ce problème-là. Par contre, ce qui en fait une série plus moderne, c'est-à-dire que, puis très, très en phase avec les autres fictions de son époque, c'est qu'il y a beaucoup de personnages de femmes scientifiques. C'est juste que ces femmes-là, ils sont pas problématiques sur le plan moral, puis tu as raison, ils sont pas des antagonistes. Par exemple, on a justement c'est pas vraiment... Elle est montrée un peu comme une assistante de laboratoire, mais en fait, c'est une scientifique qui travaille avec Walter, qui est elle qui lui fait la morale, hein, qui lui cite Oppenheimer, tout ça. C'est elle qui incarne, en fait, sa morale, qui est morte en plus, parce qu'elle est morte dans le feu. Donc, c'est symboliquement, c'est l'incarnation même de la moralité de Walter qui est morte à ce moment-là, de sa conscience. Mais à d'autres moments, effectivement, tu as raison, Florent, j'y avais pas pensé, mais il y a un épisode en particulier, je ne m'en rappelle pas du numéro précis, mais où il y a une femme scientifique, une physicienne qui est en train d'essayer de résoudre des équations. Et puis, c'est son mari qui la met dans une loupe, en fait, parce qu'elle est malade. Et puis, il la met dans une loupe temporelle pour qu'elle puisse résoudre cette équation-là ultimement. Donc, c'est lui qui va faire la transgression, c'est pas elle. Puis quand elle l'apprend, d'ailleurs, elle est scandalisée et puis elle force à arrêter puis elle a laissé mourir. Chaque fois qu'il y a une personnage de féminine qui est une scientifique, elle n'est pas forcément dans l'émotion, mais elle est dans la morale, en tout cas. Ça, c'est sûr. Elle n'est jamais dans... à part Nina Sharp, on est d'accord, elle est beaucoup plus problématique à certains égards, mais même elle, on sent que c'est un peu la conscience de William Bell. Elle l'exerce avec modération et un talent limité selon les cas, mais quand même, on sent que dans l'entreprise de William Bell, c'est elle la conscience. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples. Il y a quand même beaucoup de femmes scientifiques dans la série, mais je dirais, en tout cas, j'aurais pas tendance à dire que c'est une série de droite ou réactionnaire, au sens où, au contraire, je pense que le fait que tous les observateurs soient des hommes, je pense qu'effectivement, c'est un choix dans ce sens-là, de représentation d'une masculinité toxique. C'est quelque chose de spécifique, et non pas les hommes en général, mais un aspect de la masculinité qu'on veut justement déconstruire par là, peut-être, symboliquement.
Au niveau politique, elle est finalement assez consensuelle, c'est-à-dire qu'elle dénonce, on va dire, un débordement, notamment de forme masculine, mais on reste dans notamment la mise en avant de cette famille recomposée, mais qui reste du coup blanche, hétérosexuelle. Il y a quand même, je trouve, moi, c'est ce que je vois un peu dans Fringe, cette réconciliation autour de valeurs, oui, alors, effectivement, émotions ou morales, mais de valeurs et de caractères qui seraient traditionnellement associés à un genre ou à un autre. Et c'est vrai que le personnage de Peter a quand même... c'est un personnage quand même qui, à un moment, en saison 3, je crois, découpe les soldats, là, les réplicants. J'ai oublié les métamorphes.
Les shapeshifters.
Les shapeshifters. Il les découpe, ouais, pour arracher leur cerveau. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que grâce au reboot de la saison 4, tout le monde a oublié ce point-là. Le Peter génocidaire, quand même, qui effectivement va très loin dans une violence qui... pour moi dans la série qualifiée comme une violence typiquement exercée par des personnages masculins. Et ça c'est passé sous le tapis, très bien, hop, on a oublié. Et on a ce Peter qui, effectivement, à partir de la saison 4, va se servir de son amour, finalement, de son amour pour Olivia, pour son père, pour soigner, sinon le monde, au moins sa petite cellule familiale. Mais ça m'amène aussi plus largement au rapport au corps dans la série. Je sais que, et notamment d'ailleurs, parler aussi de politique de la série et de réception, de la part de certaines spectatrices, il m'est arrivé d'entendre une critique que je trouve plus ou moins fondée, c'est ce rapport au corps et à la vie humaine qui, dans Fringe, est quand même assez particulier, sous couvert de l'aspect savant fou et de la dimension comique, quand même des gens qui meurent et on traite leur corps d'une manière qui peut paraître déshumanisante, d'une certaine façon. Notamment, je me souviens qu'on m'avait cité l'épisode où, c'est un des derniers épisodes de la saison 1, je crois que c'est avec ce personnage qui s'appelle Nick, qui est capable de contrôler les émotions, justement, des gens qui l'entourent, et qui a aligné toutes ces personnes au sommet d'un immeuble et menace de les faire toutes tomber. Et à ce moment où il y en a une qui saute, qui est poussée finalement par ce personnage, qui s'écrase sur une voiture, et ça n'a pas l'air de froisser Peter et Walter qui sont en bas, ça n'a pas l'air de les froisser outre mesure, ils sont là en mode « Ah, bon, la situation se complique ». C'est vrai que ce rapport à l'humain, Fringe est une série qui a vraiment cherché à définir, à s'interroger sur ce que ça veut dire être humain, mais qui passe aussi par des moments qui peuvent paraître déshumanisants pour des personnages qui sont souvent des personnages secondaires. C'est ce rapport au corps, ce rapport qui est ludique. Ah, chouette, on va faire une autopsie, on va mélanger l'action d'autopsier un corps et de manger des friandises. Il y a quelque chose au niveau du discours de la série sur les corps qui peut, je pense, perturber, qui est aussi une forme de violence sur les corps, et notamment aussi pas mal de violence d'ailleurs sur les corps féminins pour le coup, que ce soit via l'exploitation d'Olivia ou plus largement ce qui arrive à d'autres personnages féminins secondaires au gré de la série. Là aussi, il y a quelque chose de complexe, voire de compliqué dans la façon dont la série traite du rapport au corps et de cette violence déshumanisante sur les corps.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et c'est un reproche qui est souvent fait à la série, en fait, ce traitement des corps. Moi, je l'ai entendu de la part de collègues hein, qui trouvaient ça trop... c'est un peu ce que j'ai essayé de dire aussi, dans cette surexposition des corps qui sont coupés, ouverts, habités par des vers, enfin, tout un tas de choses absolument ignobles. Et on se demande... Enfin, moi, je pense que ça, c'est à rattacher à la dimension horrifique, enfin, la question de l'horreur. Et je suis incapable de dire si c'est vraiment traité au second degré ou pas. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment... Enfin, moi, je l'ai pris au second degré. C'est-à-dire que, mais c'était peut-être une solution de facilité. Mais il y a des spectateurs, des spectatrices que ça a arrêté. Ça, c'est clair.
J'ai l'impression que ça dépend quand même des moments. Je ne sais pas s'il y a une stabilité vraiment de ce côté-là, parce qu'on a quand même... En tout cas, moi, j'ai l'image constante d'un personnage comme Astrid qui va toujours... montrer que c'est problématique. Fait que c'est problématisé assez souvent. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas assez, je suis assez d'accord. C'est loin d'être différent de X-Files, par exemple. C'est-à-dire que X-Files traitait les corps de la même façon. Et donc, on s'attend, les codes de la série qui reprennent ceux de X-Files nous préparent à ça. T'sais, pour moi, ça c'était pas surprenant. Après, oui, je trouve qu'il y a beaucoup quand même d'épisodes où ça, c'est questionné. Je me demande si ça fait pas partie justement de ces problèmes que Walter a qu'il doit régler, c'est-à-dire qu'ils sont montrés comme profondément problématiques. Après, oui, il est très ça nous ramène au problème du fait que ça reste un savant fou très problématique qui est sympathique et auquel on est supposé s'attacher. Ça, en soi, c'est un problème, forcément. Mais en même temps, on nous montre quand même sa progression vers autre chose. Puis je suis pas certaine si le Walter, à la fin, agirait de la même façon. Je me demande si c'est pas un questionnement aussi de la façon dont la médecine traite, parce qu'on est dans Harvard, on est à Harvard, c'est pas pour rien, je pense. C'est-à-dire qu'on est dans une institution classique, ancienne, où s'est développée beaucoup de recherches médicales très problématiques, qui a traité les corps de cette façon-là. On est aussi dans un intertexte avec tous ces romans de savants fous du 19e où on va sortir les cadavres des tombes pour les recoudre. Donc, je pense qu'on est quand même beaucoup dans cette logique-là. On est dans la monstruosité.
C'est peut-être aussi le visuel qui joue là. Parce que justement, quand on repense à Jekyll et Hyde, Hyde dans le roman, il est monstrueux, mais en fait, il est surtout caractérisé par l'intermédiaire de ceux qui le voient ou ouais. qui le croisent et qui se disent tous incapables d'expliquer le rejet qu'il déclenche. Donc évidemment, dans le texte, c'est une façon classique hein, de dire l'impensable et l'innommable. Et ça, en fait, une fois que tu es un support audiovisuel, ça ne peut plus fonctionner exactement de la même manière. Donc je me demande s'ils n'ont pas pris le parti pris de surexposer la dimension monstrueuse des traitements des corps que peuvent, traitements monstrueux que peuvent infliger les savants fous dans le cadre de leurs expériences. Mais ça, c'est bon, moi, je n'ai pas la réponse ultime non plus, hein, ça se discute. Hein, je pense que c'est plus complexe que ça. Sur les observateurs, je voulais revenir aussi par rapport à ce que disait Florent tout à l'heure. C'est vrai que ce sont tous des hommes, mais à part Septembre, à part celui-là qui commence à avoir des sentiments pour une jeune femme.
Auguste,
oui. Auguste, oui, voilà. Qui va donc, finalement, c'est une façon de répéter l'histoire de l'anomalie, hein, qui va essayer de modifier sa ligne temporelle pour qu'elle ne meure pas dans l'accident tragique qui tue ses parents. Les observateurs, moi, ils m'ont toujours donné le sentiment d'être plutôt des... Parce que d'abord, c'est des observateurs, donc c'est des personnages hors temps, hors espace, extérieurs. Ils ont tous le même profil, enfin, ils sont tous chauves. Il y a une espèce d'uniformisation des personnages qui, moi, me les rend plutôt asexués. Extrait de toutes les contingences et les dimensions humaines, en fait. Bon, après, ça, évidemment, ça n'a pas évolué hein, au fil des saisons, mais moi, je ne les percevrais pas comme des personnages qui seraient symptomatiques, justement, d'une mise en avant, d'une masculinité toxique, comme on disait tout à l'heure, ou du moins qui chercheraient à subjuguer et à écraser le féminin, quoi. Je les vois vraiment comme des entités dont l'apparence donne le sentiment d'une homogénéité et d'un groupe de personnages spécifiques.
En même temps, on a quand même choisi de les habiller comme des hommes des années 50.
C'est vrai.
Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a un côté non-genré au sens du masculin comme l'absence de genre, au sens oui. des théories féministes qui montrent que dans le fond, il n'y a que le genre féminin, le genre masculin étant non-genré. Visuellement, ce qu'ils ont décidé de construire comme image de l'observateur, sont pas particulièrement androgynes non plus.
Puis ça varie aussi avec le temps. Là encore, c'est une question de réécriture. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je vous rejoins toutes les deux, les observateurs au sens propre, c'est-à-dire le groupe de, ils sont 12, je crois, scientifiques, eux sont vraiment, ils sont en retrait. Les envahisseurs de la saison 5, même s'ils ont, c'est là que c'est peut-être malin de la part de la série, même s'ils ont exactement les mêmes attraits, même apparence, tous uniformisés, mais eux se comportent de manière très différente, notamment pas dans le sens dont ils rentrent dans les pensées sans y être invités. Là, on est dans la pure cruauté, et on nous explique qu'ils ont supprimé à un moment donné les femmes de l'existence, c'est-à-dire qu'ils ont développé le clonage, mais pour mieux évacuer les femmes. C'est comme ça qu'on nous les présente en saison 5, et on redigère, reformule, je trouve, leur image. Il y a l'image des envahisseurs. Et lorsque les envahisseurs sont présents, on notera d'ailleurs que Septembre, lorsque Septembre réapparaît, parce qu'effectivement, il y a Septembre qui, lui, est un observateur, l'observateur qu'on connaît le mieux, lui apparaît, il a quitté ses vêtements et son allure d'observateur, justement. Il a même des cheveux, si je me souviens bien. Ce qui permet, je pense que l'acteur était content de pouvoir apparaître sans avoir besoin de se raser toute la tête. Il s'est lui-même distingué de ces envahisseurs qui, eux, d'ailleurs, en termes de rapport au corps, sont aussi des monstres, littéralement. C'est-à-dire qu'ils détruisent les corps et les esprits. Et les personnages, là, je reviens sur ce que tu disais, Hélène, au niveau, effectivement, du discours de la série. Il y a des épisodes où on traite les personnages secondaires avec humanité, d'autres où on sent que, est-ce qu'on est dans le second degré, le premier degré, on n'est pas sûr. Je pense que c'est vraiment aussi une question d'écriture, hein. C'est la loi des séries, c'est chaque scénariste a sa propre patte. Mais ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant, dans la saison 5, ces personnages que j'adore, que j'ai envie de suivre, Olivia fait toute une morale sur « il faut rester humain », et quelques épisodes plus tard, on lance une attaque à coups d'armes chimiques sur le QG des envahisseurs. Pour libérer un des protagonistes, mais ça pose question, et c'est ce moment d'ailleurs de pure révulsion où on montre les pires atrocités créées par Walter qui sont déchaînées contre les envahisseurs, et notamment ces vers qui sortent de l'espèce de limace qui sort de la gorge, absolument affreux, et on est dans ce pur moment de révulsion. Au sens de Stephen King, on n'est plus dans l'horreur ni dans la terreur, on est dans la pure révulsion, et qui sert à la fois de clin d'œil, mais qui pose aussi la question effectivement du programme de la série. C'est-à-dire que, allez, on va se donner un dernier moment où on va faire référence à toutes les grandes enquêtes de la série, mais dans un moment qui, au niveau des objectifs des personnages, va un peu à l'encontre de cette quête d'humanité, de morale. On lance quand même une attaque chimique contre... On utilise des armes chimiques, c'est logiquement interdit par la Convention de Genève, je pense. Mais c'est là que la série souffle un peu le chaud et le froid, je trouve, sur cet aspect. Il fut un temps où j'ai travaillé sur l'horreur, jadis, mais surtout sur Stephen King. Et c'est de là que je tire d'ailleurs cette logique que je trouve très bien chez lui, la suggestion avec la terreur. L'horreur, c'est on montre, mais c'est supportable. La révulsion, c'est le moment où on quitte le navire, on est obligé de se cacher les yeux, c'est atroce. Et ce que fait Fringe, c'est quand même quelque chose de peu vu à la télé, je trouve, à l'époque, mais qui annonce ensuite The Walking Dead, par exemple. C'est le genre de série qu'on ne peut pas regarder quand on mange. On est aussi dans ce projet-là. C'est tout bête, hein, mais je pense que tous les sériephiles ont été confrontés à un moment à ce problème-là. On est au-delà d'un tissu intertextuel, dans une volonté d'aller plus loin dans ce qu'on peut montrer, notamment on est quand même sur une chaîne de network. Fringe, me semblait-il, a longtemps été en access prime time. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Et de quelle façon on peut le montrer sous couvert de, justement, ce côté second degré, ce côté horrifique, ce côté body horror qui passe beaucoup mieux que, par exemple, je me souviens d'un épisode de X-Files qui avait été censuré en France. Et ça n'était pas un épisode sur des atrocités, des corps qui explosent ou quoi que ce soit. C'était Oubliette, un épisode qui traitait d'un sujet extrêmement dur, la pédophilie, et qui avait été censuré parce qu'à l'époque, on était à côté, nos voisins belges étaient en pleine affaire du trou. Et l'épisode avait été censuré. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque, rapport à l'actualité. Mais par contre, la body horror, j'ai l'impression qu'on se permet aujourd'hui de montrer une violence physique et d'explorer sa dimension esthétique sur le petit écran d'une manière qui n'était pas permise il y a 30 ans, qu'on pouvait voir au cinéma, mais pas à la télévision. Donc là aussi, il y a quelque chose qui évolue dans, pas seulement jusqu'où on peut aller dans les séries, mais ce qu'on peut expérimenter au niveau, par exemple, ici, de la body horror, me semble-t-il.
Mais il me semble que ce qu'on ne voit pas, c'est la torture. Ce qu'on voit, c'est des corps, en fait. C'est soit des cadavres, soit des corps qui sont déjà tellement loin de l'humanité que pas l'impression qu'on est dans la torture. Puis c'est là que je pense qu'on s'éloigne de l'horreur. C'est-à-dire que la plupart du temps, je pense que c'est peut-être plus une réflexion sur le corps qui rappelle peut-être plus Altered Carbon. Les corps sont vus comme justement des sleeves, qui sont vus comme des choses qui n'ont pas besoin d'être bien traitées, autrement dit, qui ne sont pas vus comme de l'humanité, qui sont vus comme quelque chose d'extérieur à l'humanité. Puis les personnages principaux n'ont pas un rapport à leur corps très élaboré, c'est-à-dire qu'on a l'impression toujours qu'ils sont vêtus le plus neutre possible. À part peut-être Walter, qui est toujours dans le désir, puis qui est toujours dans le fait de vouloir manger, de vouloir... Mais tous les autres, ils ont un rapport à leur corps qui est presque inexistant. J'ai l'impression que le corps fait comme pas partie de la réflexion sur l'humanité, ou en tout cas, il est complètement évacué comme étant quelque chose, justement, qui peut être massacré, qui peut être... Et donc, l'humanité ne peut pas se trouver là, parce que le corps est justement si facilement détruisible, si facilement... monstrueux, que ça peut pas être là l'humain, en fait, que l'humain se trouve forcément ailleurs. Puis je me demande si c'est pas là justement qu'ils vont dans cette uniformisation-là des corps des observateurs. T'sais, on n'est plus dans l'humain, puis on s'est complètement éloigné. Les corps des observateurs ont l'impression qu'ils ont quelque chose de robotique, mine de rien. Il y a quelque chose de plus du tout corporel dans tout ça.
Tout à fait.
Le seul personnage, finalement, qui est quand même un personnage principal qui va subir cette dimension horrifique liée au corps, hein, c'est Charlie, je crois, son nom, qui se retrouve habité par un de ces espèces de vers, là, justement, et qu'on voit à un moment sur une table, hein, de médecin, dans le labo, quoi, et on voit sur son ventre, hein, le vers qui est en train de grossir et de bouger dans ses entrailles. Et je pense que c'est un des rares passages où un des personnages auxquels on s'est attaché, quoi, qui c'est pas le personnage principal, mais c'est quand même un des personnages récurrents et importants de la série, subit ce type d'invasion du corps et de maltraitance du corps et devient lui-même, effectivement, comme tu dis, plus qu'un objet. Enfin, dans la plupart des autres cas, en fait, c'est soit des personnages qui sont déjà morts, soit des cadavres, soit des personnages qui ne vont pas avoir aucune importance dans la série, quoi.
Ou sinon, la technologie vient réparer les corps assez régulièrement. On a le bras cybernétique de Nina, même Newton, je pense, dans le Alternate Universe, il est dans une explosion au début, puis la technologie va complètement refaire son visage progressivement, donc il est complètement brûlé, puis donc il y a quand même, on voit que les corps sont réparables, en fait, qui sont donc interchangeables, et donc il y a pas d'unité du corps, il y a pas quelque chose de, il y a certainement pas une sacralisation du corps, en tout cas, ça c'est certain.
Il me semble que c'est ce que dit la série, effectivement. Moi, je suis convaincu que la série nous dit que... le parti pris, c'est qu'il y a autre chose que le corps. Et pour moi, la saison 4 dit ça, justement au moment où la Olivia qui se souvient de Peter revient dans le corps de la Olivia qui n'est pas censée se souvenir de lui puisqu'elle vit dans un monde où il n'a jamais existé. À un moment où, pour moi, la série assume son projet, c'est de dire qu'il y a quelque chose de plus que le corps.
Oui, parce que c'est pas problématisé, ce moment-là, où elle occupe un autre corps que le sien, au fond. Elle est pas mal à l'aise dans ce corps-là. C'est l'esprit qui compte, autrement dit. Elle a pas à se modifier physiquement pour correspondre à cette nouvelle identité-là.
Même la série joue avec ça, parce qu'il y a quand même les scènes ultra-comiques où l'esprit de Belle vient habiter le corps d'Olivia. Et où on a des scènes complètement burlesques et abracabrantesques, où on a Walter et Belle qui parlent de science de façon très sérieuse comme d'éminents scientifiques masculins, justement, alors que c'est Olivia qu'on voit à l'écran. Donc c'est vrai que la série travaille beaucoup ces thématiques-là, hein, c'est certain.
Ce que je me disais, c'est que quand même, les personnages principaux sont parfois exposés à certaines de ces menaces, qu'elles soient effectives. Je crois que c'est Peter qui, à un moment, on lui fait avaler une des pilules, justement, qui fait grandir les limaces géantes. Heureusement, il la crache au dernier moment. Plusieurs personnages sont quand même confrontés à ces problèmes-là. Mais il y a même des menaces verbales. Je crois me souvenir dans la saison 1 que c'est un des patrons d'une grande entreprise pharmaceutique qui, à mots à peine voilés, menace Olivia de un jour lui injecter quelque chose qui la rendrait stérile en lui demandant « Ah, mais... à votre âge, peut-être que vous envisagez de faire des enfants et tout machin. » Il y a quand même des menaces qui pèsent sur le corps. Et effectivement, les protagonistes de Fringe s'habillent de manière assez peu remarquable. Mais dans le cas d'Olivia, c'est problématisé. C'est cette idée qu'on lui a appris à se fondre dans la masse. Elle ne s'habille qu'en noir et en niveau de gris, exactement comme tous les enfants qui ont subi les expérimentations de Walter. Et ce qui, justement, la distingue de la fougue de son double de l'univers parallèle, qui a les cheveux teints en rouge, qui s'habille avec des couleurs, qui est beaucoup plus, qui s'habille avec des vêtements aussi beaucoup plus sportifs, qui est plus égayé, qui tient finalement aussi de la performance d'Anatorv. Cette Anatorv qui, en saison 1, on a l'impression presque qu'elle joue mal, c'est un reproche qui est adressé à l'actrice. Et en fait, elle joue sans émotion, puisque c'est le but. Pour opérer ce contraste, respecter la biographie du personnage et pouvoir déployer dans les saisons qui suivent tout son jeu et cette performance du corps et du geste qui est aussi celle de l'actrice. Et là, on est même avant Orphan Black, mais on préfigure Orphan Black et cette performance de la démultiplication des corps et des identités. Et c'est là peut-être que se tient, le jeu avec le corps au niveau d'Olivia, et qui montre bien, là encore, que le corps est un outil, un accessoire qui peut être modifié, qui dit certaines choses de ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur, pour la série, me semble être autre chose que juste du matériel, du physique.
Dès le pilote, en fait, on voit Olivia dans la question de suspension pour qui se projette dans l'esprit de son copain pour découvrir qu'est-ce qui l'a tué. C'est toujours elle, d'ailleurs, qui va se retrouver dans la question de suspension de perception. Et donc, son corps va être justement en suspension alors que son esprit va ailleurs. Ça arrive quand même assez souvent dans la série.
Et c'est tout à fait vrai ce que dit d'ailleurs Florent, parce que cette performance d'Olivia, moi, ça aussi permet de réévoquer en amont Alias, où on a exactement ce principe-là. Et c'est intéressant parce que c'est peut-être là, justement, qu'on retrouve, par rapport à nos questionnements tout à l'heure sur la dimension éventuellement trop genrée de cette série, la Olivia du monde alternatif, c'est aussi la girl power. Hein. C'est aussi la femme qui assume la personne qu'elle est, qui fonce dans l'action, qui n'a peur de rien. Et qui, bon, alors peut-être à un point un peu trop caricatural par moment, mais c'est aussi ça. On retrouve finalement des aspects positifs, je pense, du point de vue de ces questions de genre, via la performance d'Olivia et son double.
ça permet à la série même de questionner l'écriture des personnages féminins forts. Parce qu'effectivement, la Altlivia, c'est typiquement la femme forte des années 2000, telle qu'on l'écrit. C'est-à-dire, elle est forte parce qu'elle se bat, parce qu'elle est musclée, parce qu'elle est capable de bien viser avec son fusil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est même cette. Et il me semble que c'est questionné aujourd'hui dans les milieux féministes, cette mise en avant même de la force, d'abord physique, dans l'écriture des personnages dans les années 2000, mais même aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a que les femmes fortes qui seraient dignes d'intérêt? Pourquoi ne pourrait-on pas s'intéresser à des personnages de femmes faibles, mais tout aussi intéressantes? Et la Olivia, on va dire la Olivia de base, qui est repliée sur elle-même, qui a ses forces, mais aussi ses faiblesses. C'est un personnage qui en devient d'autant plus intéressant lorsqu'elle est confrontée à ces écritures alternatives qui nous renvoient à des types d'écriture. Et tu parlais de Alias Hélène, c'est typiquement ça. C'est cette remise en question de personnages qui s'écrivent eux-mêmes et qui permettent aux scénaristes de se poser la question comment on est censé écrire ces personnages féminins aujourd'hui?
Bon, ben, je pense que c'est un très bon sujet pour terminer en vous remerciant tous les deux beaucoup pour cette discussion passionnante sur une série qui fait, oui, effectivement, déjà presque 10 ans qui est terminée et qui nous hante encore tous les trois, je pense, et qui va certainement passer à l'histoire, puis qui dialogue avec plein d'autres séries comme qu'on a évoquées tout au long de l'épisode et qu'on va peut-être aborder dans d'autres futurs épisodes du podcast que je vous invite à rester à l'écoute. Et donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Et à une prochaine fois.